Bachir Ben Barka, bonjour.
Bonjour.
Le 29 octobre 1965, votre père est kidnappé en plein Paris. Très vite, les policiers et les truands français qui l'ont enlevé sont identifiés. Mais sait-on aujourd'hui qui a été le vrai commanditaire de ce kidnapping ?
Le commanditaire politique est le sommet du régime marocain. Donc le roi du Maroc ne peut pas être étranger à la décision politique.
Et du reste, le ministre de l'Intérieur, le général Oufkir, sera condamné par contumace 2 ans plus tard par la justice française.
Absolument. Donc pour mettre en exécution ces décisions politiques, le régime a eu recours à un service spécialisé dans la répression politique, à savoir le CAB 1, avec ses agents sur le terrain à Paris.
Ce qui s'est passé n'a rien eu que de vulgaire et de subalterne, déclare alors le général de Gaulle. Sous-entendu, il n'y a pas de complice français de haut niveau. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il a été démontré que cette affaire était fausse. Les responsabilités françaises ne sont pas uniquement au niveau des lampistes, comme l'a voulu présenter le général de Gaulle. Il y a toute la chaîne de responsabilités, aussi bien au niveau des services secrets français qu'au niveau du ministère de l'Intérieur français et de la police française. Le complot qui aboutit à l'enlèvement de mon père était connu, aussi bien par les responsables du SDEC que par certains services de la préfecture de Paris et du ministère de l'Intérieur. Alors tout cela n'est ni vulgaire ni subalterne.
Est-ce que le ministre français de l'Intérieur, Roger Frey, a pu participer à l'enlèvement de votre père ou pas ?
Je ne dis pas qu'il a pu participer, mais je dis qu'il était informé de ce qui se préparait et il n'a rien fait pour l'empêcher.
Et au-dessus de Roger Frey ?
Pour le président de Gaulle, je suis catégorique. Il n'était pas au courant de ce qui se passait. Il devait recevoir mon père à Paris. Il était intéressé par cette action qui se menait au niveau du tiers-monde, par l'Afrique continentale, la conférence des peuples des trois continents, Afrique, Asie, Amérique latine, que préparait mon père. Ce mouvement du tiers-monde l'intéressait, au point qu'il allait recevoir Mehdi Ben Barka, qui était le président du comité préparatoire de cette conférence. Mais en parallèle, il y a l'Élysée même, il y avait Focar et les réseaux Focar qui, eux, combattaient cette Afrique continentale. Et on ne serait pas étonné si les agents de ce réseau Focar suivaient la préparation d'enlèvement.
En juillet dernier, le juge français Cyril Paco a sollicité l'audition d'un ancien agent du Mossad qui affirme que les services secrets israéliens ont aidé le Maroc à faire disparaître le corps de votre père.
Aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y avait des liens très étroits entre le Mossad israélien et les services secrets marocains. Au point que les services secrets marocains enregistraient les réunions à huis clos des chefs d'État arabes et donnaient les enregistrements au Mossad. Alors le Mossad a apporté une aide logistique aux services secrets marocains et bien sûr français dans la disparition de mon père. Alors jusqu'où va cette aide logistique ? Les derniers témoignages de 2014 précisent qu'ils auraient aidé à faire disparaître le corps de mon père dans de la chour, l'enterrant dans une forêt du côté de Saint-Germain, là où les familles des agents du Mossad allaient pique-niquer. Et c'est pour ça que le juge Paco demande à ce que cet ancien responsable des services secrets israéliens vienne témoigner, mais aujourd'hui sans réponse.
Selon certains témoignages, la tête de Mehdi Ben Barka a été présentée au roi Hassan II à Rabat avant d'être enterrée dans une prison de la capitale marocaine, le PF3. Est-ce que c'est crédible ?
Vous savez, avec certaines pratiques du régime marocain, beaucoup de choses sont possibles. La présentation de la tête, j'en sais rien. Toujours est-il que cette thèse fait partie de tout ce qu'on a pu entendre comme hypothèse sur le lieu où se trouvent les restes de mon père. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait des certitudes. Donc aujourd'hui, pour confirmer ou infirmer cette thèse de la tête enterrée dans un verger, dans un quartier résidentiel de Rabat à 50 mètres de l'ambassade des États-Unis, dans un lieu surélevé entouré par de hauts murs, pour qu'on puisse plus filmer ce qu'il y a à l'intérieur, la seule chose d'infirmer ou de confirmer cette information, c'est d'aller creuser, d'aller faire des fouilles au PF3. Nous avons demandé que ces fouilles soient faites par l'intermédiaire des commissions rogatoires, mais la justice marocaine a toujours refusé.
Alors vous parlez raison d'État. À la demande du roi Mohamed VI, François Hollande a accepté cette année de signer un nouveau protocole d'entraide judiciaire entre la France et le Maroc qui prévoit notamment que les plaintes déposées en France contre des ressortissants marocains seront désormais examinées prioritairement par le Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une décision scandaleuse. Je ne suis pas le seul à le penser. Pour la première fois dans ce genre d'affaires, toutes les associations de droits humains ont unanimement dénoncé cette clause dans la nouvelle convention judiciaire franco-marocaine, en pensant que c'est un encouragement à l'impunité des services marocains en France. Alors, je ne pense pas et j'espère pas que notre dossier, qui lui bien sûr est antérieur à cette convention, soit touché, mais ça complique le travail du juge Paco aujourd'hui lorsqu'il aura besoin d'aller enquêter au Maroc et de demander au juge marocain d'exécuter les commissions rogatoires internationales que nous lui avons demandé de diligenter auprès des autorités marocaines.
Et par ailleurs, un certain nombre de pièces des services secrets français dont la justice française demande la déclassification restent secrètes aujourd'hui.
Voilà aussi, c'est l'une des manifestations l'expression de la raison d'État que nous rencontrons depuis 50 ans. C'est le blocage des documents qui peuvent nous aider à arriver à la vérité. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce document, mais même lorsqu'un juge d'instruction, le juge Ramael, avec le président de la commission consultative du secret des forces nationales, se déplace à la DGSE et saisit 400 pages de documents que le président de la commission consultative estime utiles à l'action de la justice, cette même commission déjuge son président quelques jours après et bloque 300 des 400 pages, ne laissant que 100 pages sans aucun intérêt, souvent caviardées, toutes noircies, avec de temps en temps un mot par-ci par-là. Donc c'est scandaleux que aujourd'hui encore, 50 ans après, on ne puisse pas permettre à une famille de connaître la vérité. Il y a des questions qu'une famille se pose depuis 50 ans. Qui sont les assassins de Mehdi Ben Barka? Où est son corps? Nous n'avons pas de lieu pour aller nous recueillir. Mais il y a aussi des questions qui nous intéressent en tant que citoyens. C'est un crime d'État. Et je crois que l'opinion publique, les opinions publiques, aussi bien marocaines que françaises, ont droit à cette vérité.
Bachir Ben Barka, merci.